Bonjour David, bonjour à tous. Eux aussi crient leur colère. Les agriculteurs bio ont manifesté hier dans la capitale, réclamant un véritable plan d'urgence pour soutenir la filière. L'absence de profs non remplacés inquiète certains établissements du secondaire, une situation dénoncée par la FCPE. 100 portraits de Bressuret qui ont marqué la vie locale, c'est ce que propose l'association Histoire et Patrimoine du Bressuret dans un ouvrage à paraître début septembre. Les services techniques de la ville de Thouars, désormais regroupés sur un même site, il y a quelques décennies, ces attributions étaient pour le moins étonnantes. La météo de l'après-midi, le ciel restera encore bien nuageux, annonce Météo France. Manifestation d'agriculteurs bio donc à Paris hier. Devant les difficultés rencontrées par la filière, ils réclament un plan d'urgence de 273 millions d'euros pour compenser les pertes en 2023. Ils sont en passe de l'obtenir seulement 50. La suspension du plan Ecophyto est aussi très mal vécue par ces agriculteurs qui estiment que la transition écologique n'est pas une option mais bien une nécessité. Guy Moreau, président d'Agrobio Nouvelle-Aquitaine, joint par Fabien Gazot.
Le plan Ecophyto, à l'origine, c'était des mesures de transition agroécologique incitatives. C'est pas punitif, en fait, c'était incitatif. Et je pense que c'est un grave retour en arrière. Je pense que ça va à l'encontre, en plus, de l'intérêt de la France agricole, si je puis dire, qui a quand même une image de qualité, de produit. Ça va à l'encontre, évidemment, de tout ce qu'on peut espérer d'avancer sur la santé, y compris les agriculteurs eux-mêmes. Donc pour nous, c'est un recul en arrière inquiétant.
L'agriculture bio se sent donc abandonnée par le gouvernement, alors que ses représentants estiment aller dans le bon sens. Le constat est assez décourageant, pour ne pas dire alarmiste.
Le risque en 2024, effectivement, c'est qu'il y ait des gens qui se tournent de la bio, effectivement, soit par problème de revenus immédiat, c'est pour beaucoup, et pour d'autres, je pense que le signal en fait est très mauvais, puisque dans ce cas-là, on a l'impression que la culture dite de qualité, qui respecte la biodiversité et l'environnement, et puis donc la qualité de l'eau, en fait, elle n'est pas aidée. Je pense que c'est un recul, oui, inquiétant, en fait. Mais qui, à mon avis, est contre-productif à moyen et long terme pour la France. Ça laisse quand même un goût amer. Et puis, en même temps, il y a quand même aussi des fonds publics qui sont quand même intervenus en amont. Je veux dire, voilà, tous les gens qui sont passés en bio, ils ont aussi des aides à la conversion, ce qu'on appelle. Ça, c'est quand même des fonds publics qui ont été utilisés. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu un gaspillage d'argent public, quelque part aussi. Il faut savoir, par exemple, qu'en 2022, un agriculteur bio avait à peu près 200 euros de l'hectare d'aide. Aujourd'hui, on en a 92, donc c'est quand même un problème.
Le Mélois Guy Moreau, président d'Agrobio en Nouvelle-Aquitaine, a noté que la filière de Sévrienne a été reçue hier en préfecture et que sur place à Paris, lors du rassemblement, les manifestants ont notamment reçu le soutien de la députée de Sévrienne, Delphine Bateau. Le remplacement des profs absents pose un vrai problème. L'exaspération monte dans certains établissements avec des absences prolongées de certains enseignants qui ne sont donc pas remplacés. La FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, dénonce cette situation. Karine Gautron, la coprésidente départementale.
Ça se concentre surtout sur le français et là les situations durent. En fait, elles durent depuis la rentrée pour certaines. On est sur des élèves qui en plus, soit pour certains, vont passer le brevet des collèges, quoi, le DNB. Pour d'autres, préparent soit en seconde, soit en première le bac de français. Donc oui, une vraie inégalité. On a par exemple sur le lycée de la Venise Verte où une classe de première a eu plus de 2 mois sans enseignant de français. Donc 2 mois sur une année qui en compte à peine 10, une année scolaire. Ça provoque des inégalités. Ils demandent là aujourd'hui des aménagements pour le bac de français.
Il n'y a donc pas suffisamment de remplaçants pour pallier les absences des professeurs. Le rectorat est bien conscient du problème, mais l'équation n'est pas simple à résoudre, admettent Bénédicte Robert et Jean-Jacques Vial, respectivement rectrice et secrétaire général de l'Académie.
Effectivement, on observe qu'il y a un taux d'absence qui a augmenté et on a sous-calibré notre capacité de remplacement par rapport au taux d'absence que nous constatons cette année.
On a à prendre en compte un certain nombre d'éléments dans une équation. Donc, il y a l'accueil des élèves dans les classes, c'est la priorité. Ensuite, on a à travailler sur les problématiques de remplacement. Ça fait 2 ans qu'on crée des emplois. La rentrée dernière, on a créé 19 sur le remplacement. À cette rentrée, on en crée 12 de plus. Donc on a bien une prise en considération de ces éléments-là. Après, le taux d'absence croît plus vite que notre capacité à créer des emplois. En tout cas, on fait le nécessaire. Mais quand on est sur des pics d'absence, comme c'est le cas en ce moment, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se retrouve avec des désajustements entre les moyens mis à disposition et la réalité des absences. des ajustements qui, d'ici un mois, vont probablement se résorber et on se retrouverait avec des enseignants qui n'auraient pas de remplacement à réaliser. Donc voilà, la problématique est à réguler sur l'ensemble de l'année.
Alors des solutions sont proposées, mais elles ne sont pas vraiment acceptables. Au collège de l'APSI, par exemple, de l'enseignement à distance a été mis en place depuis lundi. Ce n'est évidemment pas satisfaisant pour la FCPE.
Bien sûr, elle n'est pas satisfaisante. D'un côté, on se dit que c'est mieux que rien, mais ce mieux que rien, quand on est rendu début février, c'est plus acceptable. C'est en plus un collège dont on a annoncé la fermeture à la rentrée prochaine. Donc c'est dans une ambiance assez désagréable pour les élèves qui y sont et pour les parents. On n'a aucun doute que les équipes du rectorat font leur maximum. Mais là, aujourd'hui, on a des absences qui sont programmées.
Karine Gautron, coprésidente de la FCPE en Deux-Sèvres, qui exprime aussi des réserves sur le choc des savoirs avec la mise en place de groupes de niveau favorisant les écarts entre les élèves. La Fédération des parents d'élèves s'interroge également sur la capacité à recruter des enseignants supplémentaires en français et en mathématiques. Fidèles aux orientations budgétaires, les élus du SV, le syndicat du Val-de-Loire, réunis hier soir, ont voté à l'unanimité le budget primitif 2024. Il s'équilibre à 13 860 000 euros en fonctionnement et à 12 120 000 en investissement. Nous y reviendrons plus longuement dans l'édition de 18h. Après l'inauguration, les portes ouvertes. L'agglomération du Bocage-Brestueux, en partenariat avec la ville de Cerisay, a mené des travaux de rénovation du multi-accueil Les Petits Mômes et du relais Petite Enfance. Ces espaces ont été totalement repensés, permettant d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et le travail des professionnels. Ces travaux vont ainsi permettre d'ouvrir 3 places supplémentaires pour un total désormais porté à 28. L'inauguration est prévue ce samedi à 10h30, suivie des portes ouvertes dans l'après-midi de 14h30 à 17h. La souscription est lancée, fruit d'un travail de 2 ans. Histoire du Bressuirais, 100 portraits à découvrir, sortira en 600 exemplaires le premier week-end de septembre. Ce livre de 134 pages, couleur, imaginé par l'association Histoire et Patrimoine du Bressuirais, met à la une des hommes et des femmes natifs du Bocage qui ont marqué la ville de Bressuire et ses communes associées du Moyen-Âge à nos jours, et qu'ils soient connus ou non, n'était pas la question. Le président de HPB, Guy Marguilaine, au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Remarquable, mais pas forcément célèbre. Remarquable parce que l'activité qu'elles ont faite, leur métier, a marqué Bressuire. Je pense notamment à une ouvrière de la conserverie du Dolo. Totalement inconnue, ou presque, mais par contre, le Dolo a marqué, marque encore, la ville de Bressuire. On est allé chercher, je le dis sincèrement, une prostituée de la Bobinette. Beaucoup de gens ont connu la Bobinette par le passé, maison de tolérance. Et puis cette prostituée, évidemment, elle est totalement inconnue. Mais en même temps, elle représente ces femmes qui ont pratiqué, certains diront leur art, à Bressuire pendant 3/4 siècle. Cette maison de tolérance, elle a, à un moment donné, participé à la vie de la ville de Bressuire.
Il y avait un critère essentiel, il faut que les personnes qui figurent dans le bouquin soient décédées.
Oui, parce que ça aurait été très délicat d'ouvrir le livre à des gens encore vivants, parce que forcément, on aurait suscité des jalousies. Donc, pour éviter cela, on a décidé qu'il fallait que les gens soient décédés.
On y rencontre aussi des politiques, des artistes, des ecclésiastiques. Un livre écrit à plusieurs mains par des contributeurs passionnés d'histoire. Et c'est Aude-Marie Clergeau, graphiste à la tête de Coup de Créa, à qui a été confiée une mise en page à l'esthétisme affirmé, privilégiant la couleur et les illustrations, dont des photos pour beaucoup inédites. La souscription pour ce livre, Histoire du Bressuirais sans portrait à découvrir, est donc lancée au prix de 22 € au lieu de 25 lors de sa sortie le 7 septembre. Bon de souscription à retrouver sur le site de HPB et dans les commerces bressurais. Nous y reviendrons plus longuement avec Guy Marilène, le président de HPB, dans la chronique Chemin d'histoire en Bocage du jeudi 4 avril. À suivre à 14h30. Le parfum d'antan des anciens services techniques de Thouars. L'inauguration des nouvelles installations près du site hospitalier a permis de vérifier l'intérêt du regroupement par l'efficacité et la cohésion des équipes jusque-là dispersées entre 2 endroits. Les cadres, en effet, œuvraient jusque-là dans les locaux situés près du commissariat de police, rue Camille Pelletan. Il traîne encore dans les mémoires quelques souvenirs liés à ce site du centre-ville. Des souvenirs étonnants, comme le rappelle avec un certain amusement le directeur des services techniques actuels, Okpratana Chun au micro colline de Dominique Hérault.
Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, le service technique de la ville s'occupait et de fabriquer des cercueils et il s'occupait aussi de l'abattoir. On avait aussi un abattoir municipal juste à côté du site de Cahiers-Pelletan. Voilà. Voilà, j'ai prévu avec la chape de faire une espèce de petit rétrospective sur l'histoire des services techniques de la ville pour un peu parachever tout cet ouvrage-là.
Toujours à l'affût des petites histoires dans la grande, l'association historique La Chape publiera donc un article sur le sujet prochainement. En attendant, les locaux municipaux désormais libérés rue Camille Pelletan sont à vendre, sans aucun cercueil bien sûr. Reportage signé Dominique Hérault. Fini la trêve hivernale pour les pensionnaires de Zoodyssée. Dès ce samedi 10 février, les visiteurs seront invités à réinvestir le parc animalier du département et à retrouver ses 800 pensionnaires à poils, à plumes ou encore à écailles. Comme chaque année, la période hivernale a été mise à profit pour réaliser de nouveaux aménagements. Les renards roux, ratons laveurs et chats forestiers évoluent désormais dans de nouveaux enclos plus vastes. Les blaireaux font leur grand retour. Cette espèce emblématique de nos contrées revient en effet à Zoodyssée après 4 années d'absence. Dès l'ouverture, un jeu de piste sera imaginé et organisé au travers des allées du parc pour aiguiser les talents d'enquêteurs des plus jeunes. De nombreuses autres animations seront proposées tout au long de l'année. Programme complet sur le site zoodyssée.fr. L'actualité sportive, basket, Cholet battu hier soir en Turquie. Si CB a résisté durant le premier quart-temps, le manque d'adresse n'a pas permis aux hommes de Laurent Villa de s'imposer sur le parquet de Tofas Bursa lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Défaite de l'équipe des Mauges, 84 à 71. Retour à la Betclic Elite dès ce samedi pour les Choletais avec un déplacement à Strasbourg. Match à 18h30. Le club de basket de Cholet va lui avoir les yeux tournés vers Anvers en Belgique. L'une des joueuses de l'équipe, Fatou Dieng en l'occurrence, va en effet tenter de décrocher avec le Sénégal sa qualification pour les JO de Paris. Elles vont affronter les États-Unis, le Nigeria et la Belgique. L'enjeu est simple, il est de terminer à l'une des 3 premières places. Fred Duflot, le président chorésien, se réjouit de voir l'inoxydable Fatou, 40 ans, dans ce type de défi, même s'il devra se passer de sa meneuse de jeu lors de la prochaine journée du championnat de National 3 à Limoges.
Et elle a la chance de faire le tournoi olympique, donc Anvers avec le Sénégal. Et elle va jouer 3 matchs, Nigeria, Belgique, États-Unis. Bon, États-Unis, je pense qu'elle n'a aucune chance de gagner. Mais si elle gagne à des autres matchs, ben elle fera encore les Jeux Olympiques de Paris. Donc pour nous, c'est une sacrée ambassadrice. Mais donc c'est génial, sauf qu'elle ne sera pas là à Limoges le week-end prochain. Donc c'est vrai que sans elle, c'est toujours un handicap important. Quoi.
Fred Duflot, à propos de Fatou Dieng, la basketteuse chorésienne qui va donc affronter avec le Sénégal, les États-Unis, le Nigeria et la Belgique cette fin de semaine en vue des qualifications pour les JO. Au chapitre des faits divers, un très grand excès de vitesse a été observé hier matin par les gendarmes à Val-de-Loume, près de Chef-Boutonne. Un automobiliste a été contrôlé à 110 km/h au lieu des 50 en agglomération. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et son véhicule placé en fourrière.